passant, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond. Mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter pour un autre demain. Chanter pour un autre demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond. Mais je ne peux rien y faire, rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde, mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne, tourne. Les chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne, tourne. Les chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Les chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Les chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Les chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Et la terre tourne, tourne, tourne. Et la terre tourne, tourne pas. Les chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire.
Radio. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir dont le générique Les éléphants de Berrurier Noir indique bien que cette émission est critique de la psychiatrie. Bonjour, et pour commencer, des commentaires sur l'actualité. Et l'actualité parle aussi en ce moment de la fin de vie. On a abordé ce sujet sur le plan juridique, mais pas seulement, à certaines émissions précédentes. Et là, je tombe sur une discussion sur une liste de diffusion à ce sujet, avec des références. Et donc, j'avais l'idée d'en faire au moins la première demi-heure de cette émission. Alors, c'est d'abord l'association pour le droit de mourir dans la dignité qui parle des deux propositions de loi relatives à l'accompagnement des malades et de la fin de vie examinées bientôt au Sénat, et qui invite à le public à se mobiliser pour interpeller les parlementaires pour porter ce projet de loi. Alors, ces deux propositions de loi qui ont été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mai 2025 qui visent à garantir l'accès l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, et celle relative au droit à l'aide à mourir. Donc deux propositions distinctes. Eh bien, ces propositions vont examiner en séance publique. Les sénateurs vont examiner en séance publique ces deux propositions de loi à compter du mardi 20 janvier 2026. Alors, d'autres détails, comme 92% des Français et 74% des médecins attaché à une loi de liberté qui créera un nouveau droit mais ne comportera aucune obligation pour quiconque. La lettre type qu'on doit envoyer au sénateur est celle-ci, donc, que je viens de commencer à vous lire. Je soutiens une augmentation des moyens nécessaires pour des soins palliatifs de qualité partout et pour tous, ainsi que la légalisation de l'aide active à mourir. Aux côtés de l'ADMD, avec le pacte progressiste sur la fin de vie, des dizaines d'organisations portent cette même revendication de liberté qui mettra la France au niveau de ses voisins européens. Tous ensemble, nous devons ouvrir le champ des possibles pour que nul arrive au seuil de sa vie, etc. etc. Donc, des commentaires sur cette annonce. De M. Qui dit « J'entends complètement les... B qui a écrit « La plupart des associations de personnes handicapées, pour ne pas dire la totalité, s'y opposent à cette loi, à ces deux propositions de loi. Car dans un contexte de capitalisme mortifère où les budgets pour la santé et l'autonomie des personnes handicapées sont coupés ou réduits, on se dirige vers une situation où les personnes handicapées n'auront pas de garantie de vie digne, mais une autoroute vers la mort digne. Le calcul est fait du côté des capitalistes comme un article dans les Échos qui se frotte les mains sur la baisse des coûts par cette loi. On peut être pour le droit de disposer de son corps comme celui de se suicider et refuser à mettre cet outil dans les mains d'institutions validistes et eugénistes. Pas de mort digne sans vie digne. Voilà, donc... Donc il y a un des sites ressources... donc un site anti-validiste donc qui soutient cette position. Alors un autre commentaire de M, justement. J'entends complètement tes arguments et j'essaie de suivre ce débat depuis plusieurs semaines, mais je ne trouve pas de réponse à la question suivante. Comment on fait dans le cas des personnes qui n'ont pas ou plus les capacités motrices pour se suicider et pour leurs proches qui risquent gros à les aider à mourir? Comment on fait dans ces cas sans cette loi sur la fin de vie digne et l'aide légale des professionnels de santé? Si quelqu'un ou quelqu'une a des réponses à m'apporter pour m'éclairer. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui écrit « On fait une meilleure loi avec de meilleurs garde-fous parce que la loi telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale est extrêmement dangereuse. Personne, je crois, n'est contre le fait de permettre à des personnes en fin de vie sans aucun espoir de guérison d'éviter une longue agonie douloureuse. La question n'est pas là. La question, c'est tous les autres cas qui peuvent amener à des dérives terrifiantes. » Après, il y a une autre personne qui invite à lire un bouquin qui, dit-elle, l'a beaucoup aidé à penser les paradoxes et les dérives possibles de cette loi. Les autrices sont des soignantes en soins palliatifs et elles défendent une fin de vie digne avec des moyens adéquats. Le titre de livre, c'est « Euthanasie, un progrès social ?» de Isabelle Marin et Sarah Piazza. Et puis il y a des vidéos, des films qui peuvent donner des billes sur les dérives dont on peut s'attendre. Et je vous propose d'en écouter un extrait de l'une de ces vidéos. Il s'agit d'une vidéo qui s'appelle « Les vidéos de Léo » et qui... Sur YouTube, mais c'est sur une petite chaîne donc YouTube. Je vous en donne plus de précisions dans quelques minutes. On commence à écouter.
Dans cette vidéo, on va parler de l'aide médicale à mourir, aussi appelée euthanasie ou suicide assisté selon les modalités de la pratique. Mais comme on ne va pas rentrer dans les détails de ces modalités, je vais me contenter d'utiliser le terme aide médicale à mourir ou AMM. Cependant, gardez bien en tête que ce terme est largement débattu parce que, soyons honnêtes, on est bel et bien en train de parler d'euthanasie. Comme les deux tiers de mes vidéos, celle-ci a de grandes chances de se faire démonétiser, donc si vous appréciez mon travail, je vous invite à me le dire avec de l'argent. Via Patreon ou via Tipeee.
Patreon,
merci d'ailleurs à toutes Tipeee. Les personnes qui me soutiennent déjà, parce que sans vous, il n'y aurait plus de vidéos depuis longtemps. Et puis,
c'est
si
normal,
vous n'en avez pas les moyens,
soutenir.
Vous pouvez liker, partager, commenter. Ça m'aide énormément. Merci à tous et très bon visionnage. Sur la fin de vie, on a tous l'impression d'avoir une opinion très arrêtée. Mais c'est pas un sujet qu'on prend plaisir à discuter entre amis et encore moins en famille. Du coup, c'est possible que vous sachiez pas comment défendre votre avis une fois que vous vous êtes déclaré plutôt pour ou plutôt contre. Et c'est d'autant plus normal que le débat est très polarisé. D'un côté, on a généralement les progressistes, les personnes qui défendent la liberté de choix et qui sont plutôt pour. C'est le cas des partis politiques allant de la France Insoumise jusqu'à certains Républicains. Et de l'autre, on a ceux qui sont opposés à la loi. Et ça comprend le Rassemblement National, avec Marine Le Pen qui s'est exprimée contre le projet, mais aussi les évêques, les archevêques de France et les associations familiales catholiques. Les mêmes associations qui organisent la Manif pour tous et qui luttent contre l'avortement. Alors, dans le débat, on n'a pas envie de se retrouver du côté des Christine Boutin cathotradies. Et d'autant moins si on est de gauche. Parce qu'en principe, on est pour l'ouverture des droits, pour la liberté de choix, donc instinctivement, on va être plutôt favorable au projet de loi sur la fin de vie. Et on va y être d'autant plus favorable que les personnes qui veulent y recourir, ce sont des gens qui ont des histoires, des visages, des familles, et leurs parcours sont parfois très douloureux, comme celui de Noël, atteint de la maladie de Charcot et qu'on a vu sur Combini.
Vous voulez partir le plus vite possible? Parce que vous n'en pouvez plus.
Qu'il est prisonnier de son corps, il ne va rien faire. T'as envisagé des solutions plus radicales?
De sauter, de suicider.
Et c'est la seule crainte, on en a encore reparlé juste avant d'avoir Claudette, c'était de se louper.
Souffrir n'est pas une vie.
Quand on se bat pour une maladie, on sait que faut se battre pour guérir. Là, tu souffres, mais tu sais que tu souffriras encore plus, quoi. C'est ridicule. Et puis cette sensation de ne pas être écoutée et entendue.
Est-ce que vous voyez aller expliquer à Noël que demain ça ira mieux, malgré sa perspective d'une mort assurément lente et douloureuse ? Non, non, en tout cas moi, je ne me vois pas faire ça. Mais vous remarquerez que là, on est très pris par notre empathie et on réfléchit pas trop au sujet. En tout cas, vous, est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que vous vous êtes demandé quels sont les enjeux derrière la mort médicalement assistée ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet de loi sur la fin de vie ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de cette loi ? Est-ce qu'on n'a pas déjà des dispositifs qui permettraient à des malades comme Noël de profiter de la vie jusqu'à ses derniers instants ? Cette question était précisément celle à laquelle devait répondre la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a rendu son rapport en avril 2023. Pour rappel, une convention citoyenne, ce sont des citoyens de tous milieux, censés être représentatifs de la société française, qui sont tirés au sort pour travailler sur un sujet. En l'occurrence, l'aide médicale à mourir. Vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière. À cette occasion, l'émission C'est ce soir avait reçu la sociologue Claire Toury, qui a encadré cette convention au nom du CESE, le Conseil économique, social et environnemental.
C'est de se dire que des gens qui ont des niveaux de diplôme très différents, des vies très différentes, enfin, qui ne seraient jamais amenés à se croiser autrement, arrivent à travailler pendant 4 mois, 9 sessions, 27 jours sur un sujet aussi compliqué. Et en même temps, moi je crois que c'est typiquement pour ce genre de sujet que les conventions citoyennes sont parfaitement adaptées.
Le rapport de la convention fait presque 200 pages et sa conclusion, c'est que le cadre actuel français ne permet pas de répondre aux situations d'accompagnement de la fin de vie et que l'accès à l'aide médicale à mourir doit être ouvert.
Concernant les formes d'accès à l'aide active à mourir, la convention citoyenne a fait émerger une position majoritaire, celle de la nécessité de mettre en place suicide assisté et euthanasie, avec de nombreuses nuances, reflet de la complexité du sujet.
Alors, ces nombreuses nuances dans la conclusion du rapport, elles sont importantes. Elles concernent notamment les conditions d'accès à l'aide médicale à mourir. Macron en a parlé récemment. Dans un entretien avec le journal La Croix du 10 mars dernier, il en a fait l'inventaire en présentant son projet de loi.
Suivant les recommandations de la Convention, il a expliqué que pour accéder à l'aide médicale à mourir, le patient devra être majeur, capable d'un discernement plein et entier, ce qui exclut les personnes atteintes de maladies psychiatriques ou neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Il faudra aussi que le patient soit atteint d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, et que celle-ci provoque des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires. C'est-à-dire que l'on ne peut pas soulager.
De premier abord, ça fait sens. Et c'est normal parce que les conventions citoyennes font généralement du bon boulot. Mais malgré tout, il y a quand même plein de spécialistes de santé qui continuent de s'opposer au projet de loi.
C'est le cas d'Alexis Burnot, qui était invité sur France Inter pendant les débats de l'année dernière. Lui, il est médecin en chef des soins palliatifs à l'Institut Curie. Et écoutez bien, il n'est pas du tout convaincu qu'on ait besoin de cette loi.
En fait, ça nous gêne parce qu'au quotidien, mon quotidien, ce sont des gens qui nous demandent de les aider à vivre. Et donc, cette demande d'euthanasie, même si elle arrive, même si elle est parfois présente, elle est ultra minoritaire par rapport à ceux qui nous demandent de les aider à vivre.
Alors, je suis d'accord avec lui, mais le projet de loi de Macron, techniquement, il s'adresse à des gens pour qui tout a déjà été tenté pour les aider à vivre, et dont la seule option restante, bah, c'est de mourir.
C'est de dire, attendez, permettez qu'il y ait l'offre de soins palliatifs, le soulagement des personnes, l'accès à ce qui permet de mieux vivre au quotidien avec de la qualité de vie et de l'autonomie à domicile, avant, pour tout le monde, avant de pouvoir aller sur ce terrain-là.
Ce qu'il relève là, c'est un point que souligne également la Convention citoyenne sur la fin de vie.
Le rapport s'est dit favorable à l'évolution de la loi française, mais sous condition que cette évolution se fasse avec des mesures importantes dans l'accessibilité des soins palliatifs et du maintien de l'autonomie. Et c'est une chose sur laquelle la Convention citoyenne a beaucoup insisté.
Les participants sont frappés par un constat. Le traitement de la douleur, l'accompagnement vers la mort ne sont pas à la hauteur des besoins, faute de moyens. D'atelier en atelier, l'état des lieux est alarmant.
Et quels sont les chiffres ? Ça veut dire c'est qu'il manque 50 médecins ou il en manque 5000 ? Il manque une unité de soins palliatifs ou il en manque 10, 20, 30 ?
Alors, vous entendez parler des soins palliatifs par-ci, soins palliatifs par-là, mais c'est quoi ces soins palliatifs et pourquoi est-ce que c'est important dans notre débat ? Pour mieux comprendre ce que c'est, on peut écouter Claire Fourcade, présidente de la Société française de l'accompagnement et des soins palliatifs. Elle a participé à la Convention citoyenne et c'est à ce titre qu'elle était reçue sur France Inter.
Un service de soins palliatifs, enfin en tout cas une équipe de soins palliatifs, c'est une équipe qui aide à vivre en situation d'incertitude. Ouais, c'est toujours un accompagnement pluridisciplinaire qui permettre à la fois d'accompagner des douleurs physiques éventuelles, tous les symptômes que la maladie peut provoquer, mais aussi un accompagnement psychologique, un accompagnement social. La maladie a un impact sur la vie sociale et familiale. Et donc c'est d'accompagner toutes ces dimensions de la souffrance liée à la maladie.
Vous vous en doutez, ces soins, ça demande du matériel bien sûr, mais aussi des psys, des médecins spécialisés et puis... plus globalement, toute une équipe de soignants présents pour accompagner le patient et, dans le meilleur des cas, à son domicile.
Les équipes veillent avant tout à soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Comment accepter un cancer polymétastatique à seulement 47 ans ? Difficile de rester seul.
On a beau l'entourer de tout l'amour qu'on peut, en fait, on n'est pas du corps médical et on a nos limites. Et ici, on a trouvé une vraie bienveillance, un vrai accompagnement.
Le but, c'est vraiment de montrer au patient que chaque jour qui lui reste à vivre est important. Important pour lui, bien sûr, mais aussi pour son entourage et pour les soignants, parce que même dans la maladie, même dans la fin de vie, les moments qu'on vit ensemble sont précieux pour tout le monde.
Moi, depuis que je suis là, c'est presque je revis, quoi. J'apprends à... je parle et puis enfin, je dis les choses que j'ai envie de dire vraiment. Donc ça m'a permis de m'ouvrir et puis avec des gens sympas et qui redonnent goût à la vie, quoi.
On se rend...
Alors c'était chaîne France 2 Picardie.
On se rend compte à quel point ces soins palliatifs changent radicalement le rapport que les patients ont à leur maladie, mais aussi à leur propre vie. Donc, quand la Convention citoyenne nous dit qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs en France et qu'il faut les renforcer, faut prendre le problème au sérieux.
Et on voit bien, effectivement, à quel point il y a des inégalités très importantes d'accès aux soins. Actuellement, on considère que c'est 2/3 des patients qui auraient besoin d'être accompagnés par une équipe de soins palliatifs qui n'y ont pas accès. 2/3. Donc c'est énorme.
Et ces 2/3 de personnes qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, ce sont nos grands-parents, nos parents, nos conjoints ou nos amis malades. Et on a tous envie de passer encore de précieux moments avec eux. C'est quand même perturbant de se dire qu'avant de pouvoir accéder aux soins dont ils ont besoin, on va leur proposer la mort médicalement assistée.
Mais bon, cet argument il peut facilement être évacué puisque Macron, dans son projet de loi sur la fin de vie, a annoncé un grand chantier sur les soins palliatifs. Toujours dans l'entretien avec le journal La Croix, il nous dit
« J'insiste sur l'importance du chantier que nous allons déployer sur les soins palliatifs avant même que la loi soit promulguée. Ces dernières années, nous avons rattrapé un peu du retard pris. Mais avec ce texte et la stratégie décennale en préparation, nous allons remettre les soins palliatifs au cœur de l'accompagnement. Pour les patients, ce sera une vraie révolution d'humanité et de fraternité en action. »
Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au gouvernement Macron en termes de santé publique ? Combien est-ce qu'ils vont coûter ces soins palliatifs ? Qui c'est qui va les payer ? Qui c'est qui va les pratiquer ? Est-ce qu'on a encore des gens qui veulent travailler à l'hôpital public aujourd'hui ? Rappelez-vous des manifestations des soignants il y a à peine 2 ans. Et dites-vous bien que depuis, la situation n'a fait que s'empirer.
Je viens juste de rentrer dans le métier et je vois des collègues épuisés. C'est les sous-effectifs. On arrive le matin et on nous dit finalement vous n'êtes pas 4 mais t'es toute seule. Le soir on te dit tu finis pas à 19 mais tu finis à 22.
C'est le Parisien.
Sur le terrain je vois vraiment que c'est vraiment la merde, faut le dire clairement.
En plus de ça, il faut compter qu'aujourd'hui on en est à 1 Français sur 4 qui renonce à des soins pour des raisons financières. Et je suis désolée, mais quand t'as le choix entre payer pour vivre ou mourir et que t'as pas les moyens de payer, est-ce que si tu choisis de mourir, c'est un choix libre et éclairé ? Ça se discute.
Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Marine, 26 ans, qui a mis fin à ses jours parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer le traitement pour soulager ses migraines. Ces dernières ne l'étaient que par un médicament qui coûte près de 1000 euros par mois et est non remboursé par la Sécurité sociale. Alors, avec l'aide de leur médecin, Marine et son conjoint ont tenté tous les recours possibles pour obtenir de l'aide. Malheureusement, la mutuelle comme l'assurance maladie ont refusé de prendre en charge le traitement. Dans l'article du Parisien qui relate cette histoire, on lit que, 15 jours après cette réponse négative, Marine, écrasée par la douleur et sans doute, comme souvent dans ces situations, par la culpabilité d'être un poids pour ses proches, commet l'irréparable.
Ce que subissait Marine et que vivent toutes les personnes souffrant d'une condition médicale, c'est une double peine. D'un côté, elles doivent gérer leurs conditions, et de l'autre, elles subissent la honte et la culpabilité de ne pas être en bonne santé et d'avoir besoin d'aide. Et ce sentiment de culpabilité, il ne faut pas le prendre à la légère, parce que, vous allez voir, il pousse vers l'aide médicale à mourir.
Donc c'est peu publié, mais par exemple, si vous regardez l'Oregon aux États-Unis, ils ont publié les causes. Quelle est la raison pour laquelle la personne a eu le suicide assisté? La première raison, ce n'est pas les douleurs réfractaires. La première raison, 93%, c'est solitude, sentiment d'être un poids pour la société, pour ma famille. Les douleurs qui sont insuffisamment soulagées arrivent en troisième position. Si c'est la raison numéro un pour être euthanasié que d'être de souffrir de solitude et d'avoir l'impression d'être un poids pour la société, ça en dit long quand même. Qu'est-ce que la société dit à tous ces gens qui sont vulnérables, handicapés ou autres?
Vous avez entendu, il a dit handicapé en plus de vulnérable. C'est dû au fait que la manière dont on traite les personnes handicapées, elle ressemble beaucoup à la manière dont on traite les malades condamnés. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les militants anti-validistes sont aussi vigilants sur ce qui se dit dans ce débat. Ils sont déjà sujets à la pression qui leur fait sentir qu'ils sont une charge pour les autres. Et ils craignent que si cette loi passe, cette pression, elle se fasse encore plus concrète.
Moi, à ta place, je me tuerais. Il faut être bien malade ou handicapé pour s'entendre confier, sans l'ombre d'une gêne, cette candide incitation au suicide. Et le fait qu'elle soit généralement camouflée derrière un compliment, « Je t'admire, tu es si courageuse », n'enlève en rien du cinglant de la claque.
Fin de vie pour les personnes handicapées. La mort ou quelle vie, Céline Extenso, Politis, 20 mars 2024.
Dans cet article pour Politis, la militante anti-validiste Céline Extenso nous expose de manière très crue comment la vie des personnes handies est perçue par ceux qui ne le sont pas, les valides, comme une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et cette perception, elle sort pas de nulle part. Selon Odile Morin, elle aussi militante anti-validiste, elle découle directement de notre société productiviste et capitaliste. Parce qu'une société productiviste place la valeur économique au-dessus de tout. La valeur de la vie elle-même est jaugée au regard de son utilité, de sa productivité, de sa rentabilité. Et comme les personnes handies sont considérées comme improductives, voire même comme une charge, comme un coût, leur vie n'a pas de valeur. Et il suffit de voir comment ça se passe au Canada pour comprendre comment la légalisation de l'aide médicale à mourir, conjuguée à cette vision de la vie, peut devenir une vraie menace pour les personnes malades ou handicapées.
C'est en 2016 que l'aide médicale à mourir a été légalisée au Canada pour les personnes dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme, exactement comme on en discute aujourd'hui en France. Et puis en 2021, pour des raisons d'égalité d'accès à la mort assistée, les critères d'accessibilité sont devenus plus flous et plus extensibles, au point que les personnes physiquement handicapées ou atteintes d'une maladie chronique y sont devenues éligibles. Suite à quoi, en un an et demi seulement, les demandes d'aide à mourir ont bondi de 30%. Dans ce reportage de Global News, ainsi que dans un article du Guardian, on apprend que parmi ces 30% se trouvaient plusieurs personnes handicapées n'ayant plus les moyens de payer leur traitement.
Le compte à rebours a commencé pour la mort de Joanie Gowie. Si vous appelez le numéro sur le site du gouvernement, ils mettent les docteurs à votre disposition pour signer les papiers. Comme beaucoup de Canadiens handicapés, elle est coincée dans un cycle de pauvreté et de désespoir. Donc elle prévoit de se donner la mort avec l'aide du gouvernement. Ils peuvent m'avoir morte en 90 jours. Comme dans mon cas, le problème n'est pas le handicap, c'est la pauvreté. Les Landry est dans une même situation, vouloir vivre, mais ne voyant aucune option que la mort. On peut organiser une assistance médicale pour mourir, et à peu près deux semaines, d'une manière très organisée et efficace. Pour autant, c'est si difficile pour mes patients d'obtenir le support social dont ils ont besoin pour vivre correctement. C'est moralement inquiétant.
Et même s'il est très difficile de savoir à quel point ces personnes sont nombreuses, il y a de quoi sérieusement s'inquiéter. Parce que le Canada ne va pas s'arrêter là. Le projet, c'est de continuer d'ouvrir la loi pour que les personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale puissent y accéder.
Ça commence à faire beaucoup de monde qui, avec la bénédiction du gouvernement et de la population, vont pouvoir se suicider sans se rater.
La situation est telle qu'en mars dernier, Atlantico titrait « Euthanasie et suicide assisté, l'effroyable dérive canadienne ». Dans cet article, Louis-André Richard, docteur en philosophie et spécialiste de l'éthique, nous explique que nous en sommes arrivés à penser que la vulnérabilité sous ses différentes formes nous éloigne de la dignité.
Vous voyez cette manière de penser la dignité et la valeur d'une vie au regard de sa productivité ? Eh bien, ça engendre de la violence structurelle. Alors, la violence structurelle, pour savoir ce que c'est dans le détail, je vous encourage à aller voir la vidéo qui s'appelle « La violence des hommes encore », parce que c'est littéralement son sujet. Mais pour rappel, la violence structurelle, c'est quand l'organisation même de la société engendre des milliers de morts. Par exemple, des gens qui meurent de maladies qu'on pourrait soigner, mais ils n'ont pas les thunes pour accéder aux soins. C'est ça, la violence structurelle. Personne ne sort les fusils, mais il y a des milliers de morts. Et la violence structurelle qui fait sentir aux personnes non productives qu'elles sont une charge, qu'elles sont un poids. Alors, les personnes non productives, c'est les personnes handicapées, les vieux, les malades, mais on pourrait pousser le raisonnement jusqu'aux chômeurs, aux retraités, aux SDF. Eh bien, la violence structurelle qui leur fait sentir qu'ils sont une charge, vous l'avez compris, elle les pousse au suicide. Et jusqu'à présent, on était tous plus ou moins d'accord pour dire que si quelqu'un a envie de se tuer, on doit l'en empêcher. Pas lui dire « Tu veux mourir parce que tu es malade, tu ne trouves pas de travail et tu n'as pas de vie sociale car tu ne peux pas sortir de chez toi ?» Bah écoute, c'est ton choix. Et d'ailleurs, sache que si tu choisis la mort, c'est remboursé par la sécurité sociale. Même plus besoin de perturber le trafic.
À partir du moment où il y a une loi, toutes les personnes sont obligées de l'envisager. C'est-à-dire que la présence de la loi fait que chacun va être amené à se demander si ce serait mieux pour lui, pour ses proches, pour la société, qu'il fasse ce choix-là.
Ce que nous dit Claire Fourcade, c'est qu'une loi, dans la société, c'est structurant. C'est même un des trucs les plus structurants. La loi façonne notre organisation sociale, mais du coup, et aussi, notre vision du monde, notre manière d'appréhender la valeur de la vie, de notre vie et de celle des autres. Donc avant de passer cette loi sur la fin de vie, il faut qu'on se pose une question essentielle, à savoir, dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Dans une société solidaire, où le collectif prend la responsabilité de s'occuper de tout le monde et en fait une priorité ? Ou dans une société individualiste, dans laquelle chacun se déresponsabilise du choix et du sort des autres ?
Ce qui me paraît important, c'est que ce choix qu'on fait soit très clair. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux messages collectifs complètement différents envoyés par la société. Actuellement, on a un message collectif envoyé par la loi qui dit « Vous comptez pour nous, vous êtes important et quoi qu'il en coûte, on va vous soulager. » Et nous, on fait ce boulot-là au nom de toute la société. Et moi, souvent, je le dis aux patients. C'est parce que vous êtes important pour nous, et pas seulement nous, les soignants, mais parce que toute notre société a dit que c'était important qu'on mette ces moyens pour vous accompagner, qu'on est là auprès de vous. Si on envoie un message qui dit « Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez, l'État est neutre, ça ne nous concerne pas », c'est un message qui est vraiment très différent en termes de collectif.
Mettez-vous bien en tête que quand la structure sociale exerce une violence sociale, cette violence est intériorisée par la population qui finit par considérer qu'elle va de soi, qu'elle est normale, que c'est OK de laisser les malades se suicider. Et il est peut-être là tout l'enjeu qui se cache derrière ce projet de loi sur la fin de vie. Alors que toutes les structures qui tiennent nos valeurs de solidarité et d'égalité sont détruites par les politiques néolibérales de la Macronie, est-ce qu'on veut vraiment aller encore plus loin ? Est-ce qu'on veut vraiment enraciner dans la loi notre indifférence au sort des autres ?
Oui, le gouvernement nous vend des soins palliatifs qui iront avec la loi. Mais on sait très bien qu'ils vont manquer de moyens parce que, de toute façon, l'hôpital et l'accompagnement des plus fragiles manquent de moyens. Et plutôt que de donner un nouveau souffle de solidarité à notre société pour faire face à ce problème, on nous propose le droit de se suicider sans se rater. Alors bien sûr que ce droit sera une nouvelle liberté pour certains et certainement un moyen d'échapper à la souffrance d'une maladie incurable pour d'autres. Bien sûr que maîtriser sa mort est important, en particulier pour ceux qui ont déjà maîtrisé leur vie. Mais pour les autres, pour ceux qui sont ballottés par les violences structurelles de notre société, est-ce que cette loi ne serait pas une nouvelle menace ? Une porte de sortie vers laquelle ils finiront par être poussés et qui s'avérera peut-être bien commode pour équilibrer les comptes sociaux ? Oui, mourir dans la dignité est important et cela devrait être un droit. Mais est-ce qu'avant de légiférer sur la mort digne, ce ne serait pas plus intéressant et surtout plus urgent de permettre à tout le monde d'accéder à la vie digne ?
Légaliser l'euthanasie, c'est suggérer que nos vies, parce qu'elles sont limitées physiquement et souvent douloureuses, sont un poids, inutiles.
Et nous refusons la légalisation d'un droit de mourir à la demande, parce qu'il finira par s'imposer à nous comme un devoir de mourir. Nous refusons une civilisation des forts, qui s'autorise à supprimer le fragile, le faible, le vulnérable, qui est la part la plus humaine de chacun d'entre nous. Nous voulons être pris en compte et entendus au cours des débats concernant des lois dont nous serons les premières victimes. Nous voulons que soit respecté notre droit de vivre jusqu'au bout, à vos côtés. Euthanasie, quand nous souffrons, rassurez-nous, soulagez-nous, retenez-nous. Tribune collective, 110 personnes handicapées, malades ou âgées s'opposent à la légalisation de l'euthanasie.
Voilà, patreon.com, vidéo de Léo et tipeee.com. Merci à ces personnes d'avoir autorisé la diffusion à l'entonnoir. Et maintenant, eh bien, un petit commentaire. Oui, donc on est en plein dans le, finalement, dans le biopouvoir, dans la biopolitique évoquée par Michel Foucault, où l'on fait vivre et on laisse mourir selon les exigences du moment. Et que cette loi peut être tout à fait sans danger dans une situation, un contexte politique progressiste et on peut dire j'allais dire libertaire, mais en tout cas plutôt ouvert sur un monde positif, on va dire, mais par contre qui peut être extrêmement dangereuse si elle est utilisée dans le cadre d'un régime totalitaire ou fasciste. Voilà. Donc c'est un peu le double tranchant de ce genre de loi. Eh bien, allez, une plage musicale et nous reprenons avec un article ou deux du Manière du voir du monde diplomatique, santé mentale, symptômes d'un monde fêlé, de octobre-novembre 2025. Mais auparavant, une chanson de OTH.
Les enfants hurlent tant qu'ils me voient, j'aimerais tant les étrangler. Les, je suis les génères d'une image de l'enfer. Ma mère est morte, on me met tantôt au monde, je ne lui ai pas pardonné d'avoir conçu cette chose immonde, lui avoir permis d'exister. Quasimodo, éléphant de man, ne m'arrive pas aux chevilles. Je ne peux pas approcher les femmes, je fais fuir les petites filles. Me balançant sous un train, mais j'en suis sorti encore plus.
seulement j'inspirais la pitié, ce serait bien moins salissant. Mais je suis léger, une image de l'enfer. S'il est, oh je suis léger, une image de l'enfer.
Radio Libertaire, émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors, je vous propose la lecture d'un article intitulé « Ainsi vieillissent nos sociétés. Pathologies neurodégénératives affectant les fonctions cognitives. La maladie d'Alzheimer s'accompagne fréquemment de troubles psychiques comme la dépression ou l'anxiété. Bien qu'elle représente un défi majeur, cette affection, dont la fréquence augmente avec l'âge, demeure en grande partie mystérieuse. En 2016, le journaliste Philippe Baquet avait mené l'enquête. Donc, un article de Philippe Baquet qui date de 2016. Au centre hospitalier de Marmande-Tonnins, Lot-et-Garonne, Madame M est arrivée en fauteuil roulant à la fin des années 2000. À 78 ans, elle avait été diagnostiquée Alzheimer par un neurologue. Elle prenait beaucoup de médicaments, avait vite perdu son autonomie et devenait très agitée. « Je me suis épuisée à l'aider », raconte sa fille, qui se résout à installer sa mère dans cette unité spécifique accueillant les patients à un stade sévère de la maladie. Là, elle a bénéficié de beaucoup de présence et de bienveillance. Au bout de 3 semaines, elle trottait et mangeait sans aide. Gériatre et chef de ce service jusqu'en 2011, M. François Bonnevet avait pris le parti de ne garder que le strict nécessaire des médicaments auparavant prescrits à ses nouveaux pensionnaires, souvent en trop grand nombre et avec de graves effets secondaires. Il existe d'autres méthodes que les camisoles chimiques pour les malades agités, explique-t-il. Il faut que les soignants soient formés à des stratégies de communication qui leur permettent d'être en phase avec les pensionnaires. Ceux-ci doivent être considérés comme des êtres humains, avec des désirs et des émotions. Fin de citation. La priorité au sein de l'unité était de respecter le bien-être et le rythme de vie des patients. Le personnel était formé à l'humanitude, une méthode et philosophie de soins mise au point et enseignée par un couple de psychogérontologues qui, je cite, « permet de faire disparaître une grande partie des troubles psychocomportementaux », commente le médecin. Cette approche bienveillante s'est traduite par une quasi-disparition des patients grabataires dans le service de M. Bonnevet entre 2002 et 2011, le ralentissement des processus infectieux et l'absence de transfert en service d'hospitalisation de longue durée. De tels résultats n'ont été possibles que grâce à la présence d'un personnel en nombre suffisant. Pour des raisons économiques, on nivelle les moyens par le bas. Comme il n'existe pas encore de médicaments efficaces, on a surtout besoin de présence humaine. Or, c'est justement ce qui manque, constate M. Philippe Masquelier, médecin coordinateur dans 3 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'agglomération lilloise. En 2006, un plan solidarité grand âge prévoit d'aligner en 5 ans le ratio d'encadrement des maisons de retraite sur celui des établissements pour personnes handicapées, soit un professionnel pour une personne accueillie. Cet objectif n'a jamais été atteint. Lancé sous la présidence de M. Nicolas Sarkozy, le plan Alzheimer 2008-2012, prolongé de 2 ans, tranchait par son ambition et ses moyens avec un budget de 1,6 milliard d'euros. Il a certes permis des avancées concrètes grâce à l'amélioration du soutien aux personnes malades et à leurs familles, mais le bilan de l'accompagnement médical et social est resté très en deçà des objectifs annoncés. Seuls 15 000 des 60 000 personnes proches des malades, les aidants, qui devaient recevoir une formation, en ont bénéficié, tandis que la pénurie d'infirmiers de nuit restait criante dans la majorité des EHPAD. Alors, ces chiffres sont les indicateurs de suivi du plan Alzheimer et maladie apparentée 2008-2012 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, sur le site de la Sécurité sociale. Aucun traitement curatif. Plutôt que d'encourager le développement d'un accompagnement humaniste des malades, les politiques publiques ont eu tendance à systématiquement privilégier le soutien à l'industrie pharmaceutique. Il n'existe toujours aucun traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Vaccins et molécules testés parfois positivement sur des souris transgéniques se sont, les uns après les autres, révélés inopérants sur les humains, voire dangereux. Le premier médicament supposé en ralentir les effets, la tacrine, avait été retiré de la vente en 2004 à cause de graves effets secondaires. Quatre autres traitements censés agir sur ces symptômes ont été commercialisés à peu près à la même époque. Les trois premières molécules, donépezil, galantamine et rivastigmine, sont des anticholinestérasiques dont la revue médicale indépendante Prescrire a démontré, dès leur apparition, le peu d'efficacité, les nombreux effets indésirables, voire la dangerosité, et le coût excessif. Malgré ces critiques, la Haute Autorité de Santé publiait en 2008 une recommandation maintenant leur remboursement. Formindep, une association de médecins pour une formation et une information médicale indépendante, déposait alors un recours devant le Conseil d'État, soulignant la partialité des experts du groupe de travail de la HAS, dont la moitié avait entretenu des liens avec les laboratoires. En 2011, la commission de la transparence de la HAS a réétudié ces médicaments avec un nouveau groupe d'experts indépendants. Ces derniers ont conclu à un service médical faible, ce qui a entraîné une baisse du taux de remboursement à 15%, avec, à la clé, des dizaines de millions d'euros d'économies pour la sécurité sociale, les prescriptions ayant chuté. Deuxième note, leur déremboursement total est entré en vigueur le 1er juin 2018, de même que celui d'une quatrième molécule, la ménantine. Je sais bien qu'ils ne servent à rien, mais je suis obligé de dire qu'ils servent un peu, car sinon ça désespère le malade, a fini par admettre monsieur Bruno Dubois, professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ayant reconnu des conflits d'intérêts. Interception, France Inter, 11 janvier 2015. Le plan Alzheimer de M. Sarkozy prétendait pallier l'échec de la recherche pharmaceutique en mobilisant l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la maladie dans un « modèle d'excellence », entre guillemets, fondé sur un partenariat public-privé très étroit. Une fondation de coopération scientifique, la Fondation Plan à Alzheimer, a ainsi été créée en 2008, associant l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM, à quatre laboratoires pharmaceutiques, Sanofi, Servier, MSD Ipsen, qui la finance et siège à son conseil d'administration. Ce type de partenariat s'est ensuite généralisé au niveau européen. Le secteur public n'est pas équipé pour faire du développement. C'est pour cela que le programme européen Innovative Medicines Initiative a lancé des consortiums gigantesques avec des dizaines de laboratoires publics et privés pour encourager les interactions entre ceux qui génèrent des hypothèses et ceux qui peuvent créer des médicaments. On parle aujourd'hui d'une recherche pré-compétitive, souligne M. Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation Plan Alzheimer. Critères de diagnostic. Le diagnostic précoce est devenu le leitmotiv de la recherche pré-compétitive. L'idée étant d'identifier des personnes souffrant de quelques troubles de mémoire qui pourraient développer dans 10 ou 15 ans la maladie d'Alzheimer. Ce changement d'approche repose sur une nouvelle définition de la maladie élaborée en 2007 par une équipe de chercheurs internationaux dirigée par M. Dubois. Jusqu'alors, la maladie d'Alzheimer n'était diagnostiquée qu'à partir d'un certain seuil de sévérité, le stade de la démence. Nous proposons désormais des critères de diagnostic qui incluent tous les stades de la maladie, notamment celui qui existe avant l'apparition des symptômes, appelé stade prodromal. Fin de citation. Conséquence de cette nouvelle définition, les laboratoires axent leurs recherches sur des médicaments destinés non plus aux personnes âgées, mais à des malades plutôt jeunes et en bonne santé qui pourront être traités préventivement durant plusieurs années. Le diagnostic précoce est encouragé par de nombreuses universités et centres hospitaliers et mis en application par des centres de consultation mémoire tels que le réseau Aloïs en Ile-de-France, réseau mémoire Aloïs, rapport d'activité 2011, Paris. En l'absence de tout traitement, les personnes repérées sont dirigées vers les protocoles d'essais thérapeutiques. Afin d'établir ces diagnostics, les médecins spécialistes sont encouragés à user de techniques telles que la neuroimagerie ou la ponction lombaire pour détecter la présence de certaines protéines dans le liquide céphalo-rachidien. Ces outils permettent d'identifier les caractéristiques biologiques de la maladie, les biomarqueurs. Mais leur utilisation, qui augure d'un marché très rentable, ne fait pas l'unanimité. Ainsi, M. Olivier Saint-Jean, responsable du service de gériatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, s'insurge. Si les biomarqueurs sont prescrits dans le cadre d'un protocole de recherche, on peut penser que cela a un sens. Mais pratiqués à la sauvage, comme le font certains centres, ils n'ont aucun intérêt clinique pour les patients. Dans mon service, c'est zéro biomarqueur. Un laboratoire pharmaceutique a demandé que la recherche des biomarqueurs soit pratiquée sur les patients diagnostiqués Alzheimer selon les anciens critères. 6. Maladie d'Alzheimer, un diagnostic simplifié avec les critères les plus fiables. INSERM Paris, 30 juin 2014. Avec cette nouvelle méthode, 36% d'entre eux n'étaient plus considérés comme Alzheimer. Monsieur Dubois en conclut, tout ce qui a été fait avant les biomarqueurs est à jeter à la poubelle. Dans quelle mesure les diagnostics de la maladie d'Alzheimer demeurent-ils fiables? Pour 1% des patients porteurs d'une mutation génétique rendant la maladie héréditaire, le dépistage fondé sur l'étude des gènes semble solide. Ils sont généralement âgés de moins de 60 ans. Les 99 restants développeraient la forme de la maladie dite sporadique, qui se déclenche en général après 70 ans, parfois avant. Pour eux, le diagnostic, même réalisé avec les biomarqueurs, est toujours incertain. Autre sujet d'interrogation, les plaques de protéines bêta-amyloïdes, dont la présence dans le cerveau fonde une grande partie des diagnostics et de la recherche de nouveaux traitements. Une étude menée durant 15 ans sur les religieuses d'un couvent aux États-Unis a montré que certaines d'entre elles avaient conservé leur capacité cérébrale intacte jusqu'à la fin de leur vie, malgré des plaques amyloïdes qui recouvraient leur cerveau autopsié. Peter Whitehouse et Daniel. Attendez, je regarde. L'énigme Alzheimer, film de Thomas Lisen, diffusé en avril 2008 sur Arte. La stabilité de leur existence et leur activité intellectuelle soutenue pouvaient expliquer leur résistance à la maladie. L'étude épidémiologique PAKID, lancée en France à la fin des années 1980, montre elle aussi que l'état de l'environnement et des parcours de vie individuels a une influence sur la détérioration cognitive. Personnes âgées quid, étude de cohorte constituée en 1988 pour suivre à long terme plus de 3000 sujets âgés de plus de 65 ans en Aquitaine. Étiquette stigmatisante. Professeur de neurologie aux États-Unis, M. Peter Whitehouse fut un expert réputé de la maladie avant d'en critiquer les présupposés. Dans son ouvrage « Le mythe de la maladie d'Alzheimer », il entend démontrer que la maladie d'Alzheimer est tout sauf un concept homogène et qu'un même diagnostic recouvre de très grandes différences entre les personnes. Il n'y a aucune preuve que la maladie d'Alzheimer se propage parmi la génération du baby-boom, si ce n'est que le monde vieillit et qu'il y a davantage de personnes d'âge moyen qui risquent de présenter un phénomène de vieillissement cérébral. Fin de citation. Peter Whitehouse et Daniel George, le mythe de la maladie d'Alzheimer, on ne vous dit ce qu'on ne vous dit pas sur le diagnostic tant redouté, de Buck Solal, Louvain-la-Neuve, 2009. Monsieur Martial van der Linden, lui, a banni de son vocabulaire l'expression « maladie d'Alzheimer » et ne parle plus que de « vieillissement cérébral cognitif problématique ». On réduit les personnes à une étiquette stigmatisante, explique ce professeur de psychopathologie et de neurophysiologie et de neuropsychologie, pardon, aux universités de Genève et de Liège. Dans les années 1980, je me suis rendu compte que la réalité était beaucoup plus complexe, qu'il y avait une vaste diversité de cas et des capacités préservées non prises en compte. Une grande partie des difficultés cognitives des personnes âgées sont dues à des problèmes vasculaires, à du diabète ou à de l'hypertension, et surtout à l'âge. Voilà, c'était un article donc de Philippe Baquet, issu du Manière de voir, de octobre-novembre 2025 du Monde diplomatique, consacré à la santé mentale. Eh bien, ainsi va se terminer l'émission. Et pour finir, je vous propose d'écouter un morceau de Adama Ouedraogo. Bon, voilà, qui s'intitule « On veut la paix et non la guerre ». Et au revoir, à la semaine prochaine.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Okay.